7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, un peu de légèreté, nous parlons mode avec notre partenaire Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Marie-Jeanne, vous êtes rédactrice en chef du magazine Brune. Mais derrière le glamour, vous aimez bien le préciser, ce sont des métiers et des emplois à la mode.
Tout à fait.
Et sur le continent africain, il se passe beaucoup de choses dans ce domaine. Bonjour Emmanuel Courrèges.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes journaliste indépendante et fondatrice de la plateforme Lago54.com, c'est une plateforme qui propose une sélection de créateurs africains au top. Pourquoi Lago 54 ?
Lago parce que Lago quoi, Lago une fille,
voilà,
en
la
langage en outil, comme on le parle en Côte d'Ivoire, et 54 pour 54 pays d'Afrique.
Afrique anglophone donc aussi, vous repérez
aussi
des talents là-bas.
Aussi.
Vous-même vous êtes une Toubab qui affiche 20 ans au compteur en Afrique,
non? C'est ça, je suis née à Yaoundé et puis ensuite j'ai vécu 10 ans au Sénégal et 10 ans en Côte d'Ivoire à Abidjan.
Voilà, et ça marque hein, pour l'association des couleurs, pour le repérage des talents. Nelly Wanji est également avec nous, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes fondatrice de la plateforme Moonlook.
Tout à fait.
Présente des designers de mode, des accessoires de mode aussi, essentiellement d'ailleurs fabriqués sur le continent africain.
Ouais, exactement.
Vous nous direz quelles sont vos difficultés pour repérer des talents, pour faire fabriquer également, et puis pour faire fabriquer surtout du haut de gamme, parce que vous aussi, vous vous positionnez comme Emmanuel Courrèges dans le haut de gamme, et Courrèges aussi d'ailleurs, parce que c'est pas simple. En tout cas, à défaut de magasins, la mode africaine se développe très très vite sur Internet et peut se faire connaître dans le monde. Marie-Jeanne, vous nous direz ce que vous en pensez de ce phénomène. Mais tout de même, c'est vrai, ces nouveaux sites internet vendent des créateurs à des prix élevés, en tout cas pour le pouvoir d'achat du continent. Alors la mode africaine peut-elle devenir luxueuse? Et dans ce cas, pour quels acheteurs? On va en discuter bien sûr. On sera également aussi en ligne avec Pascaline Turmel à l'occasion du carrousel de la mode à Pointe-Noire qui ouvrira ses portes en fin de semaine. Et bien sûr les voisins, alors vous, quel que soit votre pouvoir d'achat, et les voisines hein, évidemment, on vous donne la parole sur les nouveaux rois de la sape dans votre pays. Racontez-nous aussi comment vous aimez vous exprimer grâce à la mode, y compris si vous êtes un peu fauché, parce que le style, c'est pas une question de budget, vous aimez le préciser d'ailleurs Marie-Jeanne. Hein.
Tous les jours Emmanuel, tous les jours. Et puis aujourd'hui on fait beaucoup de mix, c'est-à-dire qu'on met du très cheap avec du très luxueux et c'est ce qui fait le style finalement.
Notre numéro de téléphone indémodable 33 1 84 22 71 71 et tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. L'espoir fait vivre. Je suis pas du côté des victimes. MHD très fort, Never chez 7 milliards de voisins pour parler des tendances de la mode. Je vous lis quelques messages, mesdames, de nos auditeurs sur le continent africain. Djibril, au Mali, nous dit que les femmes ont accès au luxe lorsqu'elles en ont les moyens, mais surtout quand elles connaissent les bonnes astuces. Les femmes se partent-elles juste pour se faire plaisir? Pourquoi les femmes se font-elles si belles? Le corps féminin est-il comme un sapin qu'on orne à sa guise? On sent une certaine méfiance de certains voisins. Ça ne nous a pas échappé, Marie-Jeanne.
Oui, c'est coutumier. premier du fait des hommes. Hein. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand on est mal habillé, ils font la réflexion. Et quand on est trop bien habillé, là, ça titille leur jalousie. Donc,
C'est exactement ça. Hein.
Exactement. Ils ne sont jamais contents, ces hommes, finalement.
Élie à Kinshasa, en RDC. Les produits africains peuvent certainement devenir luxueux. Nous devons mettre de côté notre complexe d'infériorité, prendre les choses en main, car l'Afrique regorge de talents incroyables. On a pas mal de messages qui vont régulièrement dans ce sens. Mamadou, qui est à Bamako, renchérit sur le même ton. La mode africaine peut être luxueuse à condition d'y mettre en valeur nos styles. On a tendance à laisser le made in Africa au profit de l'Occident. Or, ces produits sont fabriqués chez nous et nous vont à merveille. Alors pourquoi avons-nous honte de nos produits africains alors que les autres en profitent? Voilà, appelez-nous évidemment si vous voulez en discuter avec les invités. 33 1 84 22 71 71, Marie-Jeanne, retour sur justement, puisque on est dans le débat sur l'Afrique, avec l'Afrique ou sans l'Afrique, retour sur la polémique des Galeries Lafayette. C'était une exposition qui était, il y a quelques semaines, consacrée à la création africaine.
Oui, alors, il faut savoir que cette année, l'Afrique a été très présente en matière d'art plastique, de photographie, de cinéma également, et de mode.
À Paris.
Et à Paris, donc même dans le sud de la France, les expositions sont en train de bouger. La Fondation Vuitton a fait une sublime exposition sur l'art africain en privilégiant surtout l'Afrique du Sud. Et nous avons eu par exemple Omar Diop, ce Sénégalais très talentueux photographe qui a eu aussi une exposition là-bas. À côté de ça, vous avez la mode qui a pris effectivement un petit peu de place et un grand magasin, on va le citer, ce sont les Galeries Lafayette qui ont décidé de faire une exposition autour de l'Afrique qui s'appelle Africa Now, avec de la photo, de la sculpture, mais également de la mode. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait aucun créateur africain invité pour vendre ses vêtements. La seule mode qu'on présentait était une mode faite par des créateurs italiens, par des maisons italiennes, par des maisons françaises, qu'on ne connaît absolument pas pour leur attachement à l'Afrique d'une manière ou d'une autre, mais surtout, en fait, qui se contentaient finalement de reprendre des codes du wax, par exemple, pour présenter ces modèles. Alors là où c'est choquant, c'est que, en fait, les Galeries Lafayette n'ont même pas vu qu'ils étaient quand même dans l'erreur. Est-ce qu'on imagine une exposition, par exemple, en Chine, sur la mode française, sans citer une marque française, en prenant simplement des copistes, des gens qui font du faux, et on met ça comme ça. Donc, il y a eu plusieurs interventions.
Alors, c'est
notamment
une polémique qu'on avait déjà abordée d'ailleurs dans cette émission, mais c'est vrai qu'elle a fait tache d'huile, notamment dans les milieux de la diaspora.
Oui, bien
très
sûr.
Clairement.
Bien sûr. Bien sûr.
Emmanuel Courrèges, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, c'est pas un débat c'est pas une question qui m'étonne finalement, parce que c'est quelque chose.
C'est
en
pas
tant
nouveau.
D'abord, c'est pas nouveau. Et puis, en tant que journaliste, depuis 20 ans dans la presse féminine française, c'est quelque chose que j'ai pu aussi observer. Et je me suis aperçue très souvent quand moi-même je proposais des sujets sur la mode africaine ou sur d'autres sujets liés à la culture africaine, que certaines personnes se sentaient spécialistes de ce continent sans y avoir mis parfois jamais les pieds, ou y être allée une ou deux fois. Et je sens, j'ai toujours considéré qu'il y avait avec l'Afrique
un malentendu,
condescendance.
Non, je dirais pas un malentendu, une condescendance, mais un sentiment d'appropriation, comme si finalement on pouvait faire avec l'Afrique ce qu'on ne s'autoriserait pas à faire avec d'autres pays ou d'autres continents, avec l'Asie. Et là, je l'ai encore vu, parce que cette année, évidemment, et Marie-Jeanne le rappelait, il y a eu un certain nombre d'événements culturels liés à l'Afrique, à Paris en particulier, donc dans l'art, et j'ai proposé un certain nombre de sujets. Et j'avais une certaine, entre guillemets, légitimité, parce que certaines personnes, je les connais depuis 15 ans, 20 ans, et donc je connais leur travail peut-être plus particulièrement que d'autres journalistes parisiens. Et non, encore une fois, je pense que certaines rédactions n'ont pas compris. Et c'est la même chose en mode, mais en même temps, je voudrais dire une chose qui est quand même aussi, à mon sens, importante. Un magazine qui s'appelle L'Officiel Paris, l'année dernière, donc au mois de septembre dernier, a fait son spécial mode qui s'appelait Gang of Africa. Et l'un des stylistes est lui-même d'origine sénégalaise et ivoirienne. Il n'y avait pas dans ce magazine, à part quelques petits sujets sur l'Afrique, pas une série mode dans laquelle il y avait un stylisme africain. Pas une série mode dans laquelle il y avait, un shooting réalisé en Afrique. Pas une série mode où il y avait un mannequin venu du continent africain.
Donc, Gang of Africa, mais gang sur la culture africaine. Mmh. Là,
tout à fait.
Vraiment, hold up.
Bien sûr.
Voilà. Mmh. Donc, c'est pas seulement une histoire de gens qui connaissent pas. Il y a aussi parfois des gens qui connaissent, mais qui font à côté de la plaque aussi.
Nelly Wanji, vous avez fondé une plateforme pour mettre en valeur des créateurs africains qui fabriquent sur le continent africain. Vous avez même ouvert une galerie rue du Faubourg Saint-Honoré. Comment voyez les choses évoluer?
Comment voir les choses évoluer? C'est très compliqué dans un environnement français où on a tendance à être ignoré, parce que c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu cet événement des Galeries Lafayette, parce que j'œuvre sur Paris depuis 3 ans. Donc on a eu 2 événements éphémères, on a présenté une sélection mode sur le boulevard Beaumarchais. J'ai été en contact avec les Galeries Lafayette, on était vraiment présents sur les différents salons. Donc, avoir un tel événement où on ignore tout simplement tout le travail qui a été fait, il n'y a pas que moi, il y a une grosse scène quand même créative parisienne qui œuvre pour l'Afrique depuis très longtemps. Je n'ai pas envie de citer les contemporains, mais ceux qui savent, qui vivent à Paris, doivent connaître des Imana ici, qui sont à Paris depuis...
Qui vit régulièrement dans nos zones.
Voilà. Il y a des Eli Kwam qui sont à Paris, qui sont à côté des Galeries Lafayette. Donc, ce n'est pas très compliqué de les contacter et de travailler avec eux. Donc,
on peut dire que la mode, les créateurs africains, aujourd'hui, alors est-ce que c'est spécifique à la France, à l'Europe, vous allez nous le dire, en tout cas, ne sont pas du tout dans la situation des musiciens?
Absolument pas.
Non.
Absolument pas.
Il y a une forme d'ignorance totale de la scène mode africaine vit ici.
Emmanuel Courageau, vous avez fondé Lago 54, donc la fille. Pourquoi, comment, vous dites sur votre site internet, donc vous proposez de commercialiser des créateurs africains, que c'est un projet politique. Vous n'exagérez pas un peu?
Non, je ne crois pas. Je dis que c'est un projet politique en ce sens qu'il a vocation à décadenasser nos imaginaires. Quand je dis nos imaginaires, c'est l'imaginaire occidental principalement sur la mode africaine. La mode africaine, c'est une espèce de mot valise qui ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que c'est que la mode africaine? Est-ce que c'est les vestiaires traditionnels de 54 pays d'Afrique? Est-ce que c'est le wax? Est-ce que c'est un créateur très pointu comme Loza Maleombo? Je crois qu'il faut justement creuser ça et qu'il faut aussi que les médias occidentaux, que les chercheurs occidentaux, que les acheteurs occidentaux se posent cette question. Et à travers cette sélection donc, que je propose sur ce site, j'ai voulu montrer quelque chose qui vienne bousculer nos rétines, finalement, qui vienne bousculer nos imaginaires.
C'est ça. Alors, vous commencez d'ailleurs à annoncer la couleur. La mode africaine, ce n'est pas le wax. La mode africaine, ce n'est pas la mode ethnique. Et la mode africaine, ce n'est pas la production solidaire. Non. Bon.
Oui, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé à chercher des appuis, des soutiens, je veux juste te dire que ce projet, je l'ai porté toute seule, il est fait sur fonds propres, que j'ai acheté toutes les créations qui sont sur ce site, c'est-à-dire que je ne fais pas comme beaucoup de magasins en France qui ont quelques créateurs africains qui font du consignment, c'est-à-dire juste du dépôt-vente, qui les accueillent gentiment mais qui ne les achètent pas. Moi, je leur ai fait confiance. Mais j'ai voulu désolidariser cette mode africaine de la solidarité. Donc, petite anecdote, j'ai cherché effectivement des soutiens et j'ai eu une personne de l'univers politique qui, quand je suis arrivée pour exposer mon projet, m'a dit « Ah oui, mais nous aussi, on fait des choses sur la mode africaine. D'ailleurs, on fait quelque chose bientôt sur le paludisme. » Et là, je me suis dit « Mais j'ai pas tort. » Vous posiez la question « Est-ce que c'est pas exagéré ?» Je n'ai pas tort de dire que c'est un projet politique. Parce que, justement, il faut désolidariser cette création faite sur le continent avec tout cet imaginaire de « On vend des paniers qui vont aider des petits-enfants. On vend un sac qui va permettre de créer une école et permettre à Aminata de s'acheter je sais pas quoi. » Il y en a marre de ce discours-là.
Ce qui ne veut pas dire que vous êtes contre l'humanitaire.
Mais évidemment pas. Je suis immensément admirative de gens qui font des choses formidables. Je pense que c'est la communication qu'il faut changer. C'est le fait de cesser de parler de cette mode en communiquant.
Donc parler des créateurs africains parce qu'ils ont du talent, tout simplement.
Parce qu'ils ont du talent, de leur textile, de leur vision, des histoires qu'ils veulent raconter et qu'ils tissent dans ces créations.
Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Oui, en fait, ça fait longtemps qu'on est dans cette même optique. Il faut voir aussi que l'Afrique est en train de bouger. Je vous assure, Emmanuel, tous les 15 jours à Paris, il y a un forum sur le luxe en Afrique. Il y a des gens qui se sont engouffrés dedans. Donc l'Afrique, c'est le continent du luxe, c'est le continent où on peut trouver maintenant, puisque, si vous voulez, le marché asiatique est un petit peu atone, le marché américain remonte un petit peu.
Donc il faut trouver le nouveau Far West où il va y avoir de l'argent pour les débouchés du luxe, ça va être le continent africain, puisqu'il y a du pétrole, c'est ça.
Tout à fait, enfin, même si le pétrole en ce moment est en mauvaise passe. Mais
donc là, c'est du luxe européen que l'on... tentent de commercialiser sur le continent africain.
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, non seulement du luxe européen, mais aussi une image différente de l'Afrique, avec des hôtels de luxe qui ouvrent tous les jours, avec des nouvelles propositions. Il faut voir que cette envie de décloisonner les mentalités doit aussi se faire en Afrique, parce que les Africains aussi sont coupables de ne pas aider la mode. Vous voyez, Adama Paris fait le 15e anniversaire donc, de son événement, la Black Fashion Week, et elle le porte à bout de bras avec beaucoup de souffrance. Yvette Taille, il faut qu'on en parle, qui pendant 10 ans a fait le labo ethnique à Paris, met la clé sous la porte. Et c'est avec beaucoup de tristesse qu'on sent ça. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il y a une émulation et en même temps, la réalité du marché fait que vous n'êtes pas aidé.
Alors, qui est responsable? La France, les Européens, l'Afrique elle-même ?
Non, je pense qu'il y a un concours de circonstances, c'est-à-dire que de toute façon, nous sommes encore invisibles en France. Moi, j'ai fait quasiment tous les labos ethniques, je peux vous dire que c'était dans des lieux prestigieux à Paris, dans le Marais, c'était à la Maison de la Mode, donc sur les quais, et 99% de la clientèle qui venait était africaine. Ça veut dire que les Européens ne voient pas cette mode.
Mais alors, les médias. À qui s'adressent vos plateformes internet maintenant ? À la diaspora qui a du pouvoir d'achat, qui a envie de conserver un style lié à ses origines, à qui, Nelly Wanji?
Je pense qu'au-delà de l'émulation, justement, il faut aller dans la structuration. Avant d'être un métier créatif, la mode est un métier pour gagner de l'argent. Donc ça doit être un business et ça doit être structuré du côté des marques comme un business. Il y a beaucoup de marques aussi qui ne font pas le travail de communiquer correctement, de communiquer auprès des bonnes personnes. Et je pense que si même beaucoup d'acheteurs en France ne connaissent pas beaucoup de marques, c'est parce que ces marques-là ne font pas le travail en fait, d'envoyer des lookbooks, d'envoyer des line sheets, d'être présentes sur des salons, d'être visibles en fait finalement à l'international. Et c'est où nous voulons aller, d'aller justement dans cette dynamique de dire que la mode africaine ou la mode faite en Afrique n'est pas une mode que pour les
Donc
Africains.
Donc c'est de la faute des créateurs eux-mêmes ?
Aussi, partiellement. Parce que quand on regarde une scène parisienne, quand on fait les salons, quand on fait des salons comme Woosnext, on va faire des salons. Notamment, il y a une marque qui a cartonné suite à sa participation à Woosnext, qui est une marque qui utilise des codes africains.
Mais on peut dire la même chose sur les musiciens africains. Les musiciens africains sont parvenus à se faire connaître et à connaître un immense succès en Europe parce qu'ils ont eu des agents, parce qu'il y a eu des labels derrière, parce qu'il y a eu tout un secteur qui était très structuré.
La diffusion et la supply chain, finalement, de la musique n'est pas la même que celle de la mode.
C'est sûr.
Quand on commence à parler d'importation de textiles, hein, il faut passer par la douane, il faut savoir de quoi on parle. Et il faut être capable, en fait, d'importer, en fait, à l'international. Beaucoup de ces marques ne savent pas. Quand je parle d'un document à certains, l'UR1, pour importer sans taxe de douanière, ils ne savent pas de
là
quoi
vous
je parle.
Là, vous parlez chinois, moi aussi.
Exactement. Non, mais c'est quand on est dans le métier de la mode et qu'on veut exporter depuis l'Afrique vers l'Europe et qu'on veut toucher le marché français, il faut être en mesure aussi de répondre à un certain nombre d'exigences. Donc, il y a ce travail qui doit être fait. Et finalement, cette mode doit être exposée aussi à la clientèle française où elle la verrait. Il ne faut pas toujours aller au même endroit. Il faut peut-être sortir des sentiers battus et aller exposer cette mode au plus grand nombre.
Et avec la clientèle africaine en Afrique, Emmanuel Courage ?
Moi, je crois que c'est l'enjeu du futur, en fait, parce qu'on parle toujours et quand on assiste à des conférences, Marie-Jeanne le rappelait, il y a énormément de conférences sur le luxe en Afrique, il y a énormément de conférences et de débats à Paris récemment sur justement comment faire en sorte que la mode africaine se développe davantage ici, en France. Moi, je crois que l'enjeu, même si Lago 54 a vocation justement à diffuser cette mode ici, je crois que l'enjeu majeur pour les créateurs africains, c'est de vendre en Afrique. Et que là, le travail
Alors vous nous disiez, moi je suis contre une mode humanitaire, une mode solidaire, en revanche vous avez un principe, c'est un principe de slow fashion, c'est-à-dire on achète peu mais beau, et vous ne produisez que ce qui est commandé et payé.
Oui, alors ça va être assez variable, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai acheté beaucoup de choses là récemment, donc je commence avec un stock qui est disponible.
Voilà. Et ensuite c'est le client qui va prendre le relais en fait.
Oui, prendre le relais, c'est ça. On va ouvrir des carnets de commandes. Nelly Vanji parlait de l'aspect commercial. C'est une chose qui est encore difficile avec l'Afrique.
Donc, acheter un créateur africain, c'est quand même aussi un acte politique pour soutenir une certaine création sur le continent, même si ce n'est pas un acte solidaire, comme vous le disiez.
Une forme d'engagement.
On va en parler juste après le flash. Vous restez avec nous au 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous si vous avez envie de nous parler de la création des rois de la sape chez vous, dans votre pays.
Bonjour, c'est 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les tendances de la mode sur le continent africain et comment cette mode s'exporte aussi désormais via Internet, donc plus facilement, mais à des prix élevés parce que ce sont des produits désormais haut de gamme. Alors l'Afrique peut-elle être luxueuse concernant la création mode? Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On en discute avec Marie-Jeanne Serbin-Thomas du magazine Brune, Emmanuelle Courrèges, fondatrice de la plateforme Lago 54 pour la fille, hein, Amnouchi, une plateforme qui propose une sélection de créateurs africains pointus, comme on dit, dans le milieu de la mode. Et Nelly Wanji, fondatrice de la plateforme Moonlook, qui présente également des designers de mode, des accessoires de mode made in Africa. En fait, principalement Nelly, venue du Nigeria, de la Tanzanie, du Kenya, du Maroc. Alors tout de même, pour quelqu'un originaire du continent africain francophone, pourquoi autant d'anglophones, le Nigeria, la Tanzanie, le Kenya? Nelly,
il y a aussi quelques francophones, ouais. ils sont pas oubliés. C'est juste que
la
dynamique.
Vous portez, vous avez un magnifique collier avec des plumes et puis des boutons recouvert de wax d'imprimé.
Oui. Donc oui, en effet, pourquoi une majorité d'anglophones? Parce que les anglophones sont beaucoup plus rapides en business, donc c'est beaucoup plus je veux pas froisser les francophones, hein, mais avec les anglophones ça va beaucoup plus vite. Ils ont une capacité à réagir qui est beaucoup plus rapide en termes de business. Donc depuis le lancement de notre plateforme, on a eu beaucoup plus de facilité à travailler avec les anglophones. Et il faut dire aussi que dans les pays francophones, les marques émergentes qui ont une stature internationale, un positionnement international et une communication de qualité se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Donc il y a un gros travail aussi à faire en termes de communication, de branding et de marketing du côté des marques francophones pour faciliter l'exportation. Mmh. Parce que nous ne pouvons pas faire tout le travail pour les marques et on ne peut que sélectionner celles qui émergent déjà.
Comment vous expliquez cela qu'un créateur à Lagos, à Dar es Salaam, à Mombasa ou à Nairobi, il est dans la création, c'est un artiste, il se couche tard, il a dessiné et le matin il est hop comme ça rapide pour le business, ou parce qu'il sait s'entourer?
On va dire
Africains francophones.
Le tempérament business est un peu différent. Nous, les Africains francophones, nous avons des fois la tendance à vouloir le résultat tout de suite. On n'est pas patient, on ne veut pas investir dans le futur. On veut tout de suite vendre tout de suite maintenant, alors qu'il faut être patient aussi d'investir dans une image de marque, de laisser le temps que les choses prennent et de pouvoir suivre avec une équipe, parce qu'être seul quand on est une marque, c'est juste mission impossible, de pouvoir faire des très belles photos, de travailler son image. Donc on va dire que l'environnement aussi autour des marques favorise la qualité de leur production. Et en Afrique anglophone, et notamment avec des pays qui tirent un peu la danse en Afrique comme le Nigeria, il y a quand même un environnement un peu plus favorable.
Ouais, parce environnement et une clientèle,
et une clientèle,
une société
favorable
autour, des consommatrices, des consommateurs.
Je crois qu'il y a une chose ici importante à souligner, c'est le rôle de la diaspora. Et le Nigeria en particulier dont on parlait, il y a une diaspora nigériane importante à Londres et une diaspora nigériane importante aux États-Unis. Beaucoup aussi de jeunes. Alors il y a un mot, je ne sais pas s'il est très usité aujourd'hui, mais il est utilisé en tout cas dans certains médias, les repates, comme on dit.
Oui, les repates. On a fait des émissions là-dessus,
voilà.
Tout à fait.
Donc beaucoup de jeunes qui ont fait leurs études aux États-Unis, qui ont fait du business.
Rentrés,
hein,
et qui sont rentrés.
Et qui sont rentrés.
Avec de l'argent et qui ont investi.
Qui ont investi ou qui en tout cas ont à cœur de s'engager, de défendre un certain nombre de marques. Je pense notamment à une jeune femme qui travaille dans l'univers de l'art, qui est curator, commissaire d'exposition, et qui travaille avec des artistes, des photographes à Lagos, avec des créateurs de mode qu'elle soutient et dont elle participe à construire l'image de marque. Mais c'est quelqu'un qui a grandi à l'extérieur et qui est revenu, qui est d'origine nigériane. Et je pense que toutes ces marques ont dans leur sein, toutes ces marques dont parlait aussi Nelly Wanji,
des repates.
À Lisa Folawiyo, je pense à Orange Culture, je pense qu'ils sont des créateurs nigérians, à Lorena Silva, etc. Qui sont, il y a dans toutes ces équipes des gens qui viennent de l'extérieur.
Mais Emmanuel, je crois aussi le gros problème, c'est la formation. Parce que la majorité des Africains francophones considèrent la mode un petit peu comme nos mères la considéraient il y a une cinquantaine d'années, c'est-à-dire comme de la confection. Aujourd'hui, on n'apprend plus la mode de la même façon, c'est-à-dire qu'on parle de marketing, on parle d'image, on parle de suivi, on parle de relations publiques. Et on ne parle pas seulement de prendre des ciseaux et puis une aiguille et du fil. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stylistes qui restent à ce niveau, c'est-à-dire qu'ils ont un tissu, ils le coupent, ils créent, ils vendent. Quand vous allez dans leur boutique, si vous trouvez quelque chose, c'est bien. Si vous ne trouvez pas, ben, tant pis pour vous. Si vous leur demandez une photo, vous pouvez parfois attendre un an ou deux ans avant qu'ils vous envoient une photo. Donc c'est très très compliqué. Et il y en a très peu qui ont une vision de la mode, une vision économique de la mode. Et ce qui se passe aussi, c'est que au fur et à mesure, hein, parce que moi j'en connais énormément, demain je pars sur le Congo pour la manifestation de Pointe-Noire. Cette culture en fait de la mode n'est pas donnée ni à l'école ni au niveau commercial. La plupart des stylistes sont seuls. Il y a très peu. Adama Paris, qui fait son événement avec tellement de difficultés, n'est pas aidé par le gouvernement. Tous ces gens en fait sont vus un petit peu comme des laissés pour compte. Et ça, c'est une grande différence.
Vous parliez, on va revenir dans quelques instants aux consommatrices, aussi aux clientes. Comment s'habille-t-on à Lagos par rapport à Abidjan, par exemple? Mais je voudrais, puisque vous évoquiez le carrousel de la mode à Pointe-Noire et que vous prenez l'avion tout à l'heure, non?
C'est demain ça matin.
Demain pour aller assister et participer au carrousel de la mode à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Nous sommes en ligne avec Pascaline Turmel. Bonjour. Pascaline, nous entendez-vous? Vous nous entendez? Allô, allô, Pascaline Turmel, en direct de Pointe-Noire. Il semblerait qu'on ait des petits problèmes de ligne téléphonique en ce moment avec le Congo-Brazzaville. On lui donnera la parole dès qu'on la retrouvera. Justement, vous nous disiez la professionnalisation, les artistes créateurs, le Nigeria avec la place de la diaspora. Aujourd'hui, à Lagos, qu'est-ce qui se passe dans les villes, puisque vous connaissez bien le Nigeria, Nelly Wanji, Emmanuel Courrèges, que se passe-t-il dans les rues par rapport à des villes d'Afrique francophone?
Emmanuel, je crois qu'il y a une chose qui est moi j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, effectivement je vais régulièrement au Nigeria à Lagos puisque je suis pour le Vogue italien la Fashion Week de Lagos depuis maintenant 3 ans. Ce qui frappe à Lagos, c'est la fierté de porter africain. Quand on va, j'ai eu la chance d'assister à des défilés chez Alara, qui est le concept store de la mode en Afrique aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de lieu plus luxueux pour la mode sur le continent africain. J'ai eu la chance d'assister.
Ça ressemble à quoi ?
Alors, c'est un cube designé par l'architecte anglo-ghanéen David Adjaye. C'est une espèce de cube rouge avec une armature métallique. C'est assez surréaliste, en plein milieu d'un quartier, avec un foisonnement incroyable. C'est sur 4 étages, c'est difficile à décrire, avec un escalier comme ça qui circule sur 4 étages. Et quand on assiste à des défilés ou à des soirées chez Alara...
Donc en plein Lagos.
En plein Lagos, au cœur de cette mégalopole de plusieurs millions d'habitants... C'est incroyable de voir que toutes les femmes... Il n'y a quasiment pas de wax. Et en revanche, toutes les femmes sont habillées en Loza Maleombo, en Lisa Folawiyo, en Orange Culture pour les hommes, etc.
Alors en image, ça donne quoi? Parce que les noms ne nous évoquent pas forcément quelque chose à nous et aux voisines et aux voisins qui nous écoutent.
Alors, je viens de citer Loza Maleombo. Alors, elle n'est pas nigériane, elle est d'origine ivoirienne. Ça donne une créatrice. Pour moi, c'est probablement aujourd'hui la créatrice africaine la plus inspirée, la plus talentueuse du continent. En tout cas, en Afrique de l'Ouest. Mais comme je l'aime vraiment, je dis du continent.
Bon, voilà, on va avoir les auditeurs qui nous ont appelés de Côte d'Ivoire.
Voilà. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je vais à Abidjan et que je parle de Loza, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont cette femme aussi talentueuse qui travaille dans le quartier du Plateau, pas très loin de chez eux, et qui habille Beyoncé, Solange Knowles au dernier Grammy Awards, porter une veste de la dernière collection de Loza Maleombo. Et c'est quelqu'un qui fait pas seulement des jolis vêtements, qui fait pas seulement des jolies robes. C'est quelqu'un qui a une vision. D'abord, c'est quelqu'un qui va chercher dans son patrimoine esthétique, culturel, textile. Mais au-delà de ça, parce qu'elle est pas la seule finalement à aller chercher les textiles traditionnels, c'est quelqu'un qui interroge la silhouette de la femme, qui interroge le corps féminin et qui essaie de renouveler. C'est quelqu'un qui parle de genre, par exemple, qui va chercher à redéfinir ce que c'est que le genre.
Un homme, une femme.
C'est-à-dire qui va faire des vêtements que...
Concrètement, ça donne quoi?
Eh ben, ça veut dire que, par exemple, elle va pas avoir des robes avec des décolletés plongeants, mais que le côté sexy que toutes les femmes vont vouloir avoir, il va être placé ailleurs. C'est-à-dire qu'elle va redéfinir ce que c'est que le sexy, que ce que c'est que la silhouette féminine.
Alors, on parlait de Pascaline Turmel tout à l'heure. Je crois qu'on l'a retrouvée, que la ligne téléphonique fonctionne en direct de Pointe-Noire. Bonjour Pascaline.
Oui, bonjour.
Pascaline, vous êtes la fondatrice du carrousel de la mode à Pointe-Noire qui ouvrira ses portes en fin de semaine du 15 au 18 juin. Qu'est-ce qu'on va découvrir à ce carrousel?
qu'est-ce qu'on va découvrir? Disons que le carrousel tourne surtout autour des jeunes couturiers congolais. À mon arrivée ici à Pointe-Noire, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont intéressées par la mode, par la couture, mais qui avaient beaucoup de problèmes en fait sur la créativité et les finitions. Donc du coup, l'événement en fait se tourne autour de ces jeunes couturiers, mais pour donner un peu plus d'originalité à cet événement en fait, on fait venir des stylistes renommés justement pour des formations avec les jeunes couturiers et aussi pour un défilé international.
Au pays des sapeurs, est-ce que la création purement africaine, d'inspiration africaine, a du mal à s'exprimer? Pascaline, vous nous entendez? Bon, je crois qu'on a vraiment des difficultés aujourd'hui. En tout cas, voilà, on aura su l'essentiel. Mais Marie-Jeanne Sermat-Thomas, vous partez demain justement pour participer à ce carrousel de la mode à Pointe-Noire. Alors là, on voit bien que ça tranche hein, comme environnement. Vous nous parliez, Emmanuel, juste avant de Lagos, des Fashion Week à Lagos qui sont dans une exubérance et puis aussi très portés par une dynamique économique hein, très, très forte. Là, on est dans un pays qui essaye de faire des choses et où c'est beaucoup plus difficile.
Oui, parce que en fait, les Congolais sont plus consommateurs qu'acteurs. C'est-à-dire que quand on parle des sapeurs, qu'est-ce que c'est la sape? En fait, c'est aller trouver soit des grandes marques occidentales que l'on associe avec beaucoup d'élégance, avec un charme fou, soit on va chez les fripiers, en fait, vraiment. Mais vous allez voir que les sapeurs, en fait, portent très peu de tissus africains, par exemple. Ils portent très peu de wax, ils portent très peu de raffia, ils portent très peu de tapa. Donc, ce sont surtout des mélangeurs de styles qui picorent à droite et à gauche. Et on retrouve ça au Congo. Quand vous allez à une soirée de gala, sauf quand, par exemple, il y a un événement comme manifestation, l'anniversaire du pays ou alors des funérailles, là, il y aura un code vestimentaire qui sera imposé avec des pagnes et tout ça. Mais sinon, en fait, ce n'est pas un pays où il y a une foison, où il y a une démarche artistique très, très, très importante. Parce qu'il y a une histoire à ça aussi. Hein. Donc le pays était marxiste-léniniste et tout ce qui était un petit peu culturel était fait en face et non pas, c'est-à-dire à Kinshasa.
C'est ça, sur
pas,
l'autre rive du fleuve Congo.
Voilà. Donc, mais des très grands consommateurs. Mais aujourd'hui, on trouve quelques-uns, quelques personnes, quelques personnalités qui arrivent à s'exprimer dans la mode et avec talent.
On n'a pas encore beaucoup parlé, on a parlé des créateurs, beaucoup d'ailleurs au sens masculin, encore que non, puisque vous nous avez dit que pour vous, la plus talentueuse de toutes, c'était Loza Maléombo, donc qui est bien une créatrice, hein, Emmanuelle Courrèges. En tout cas, on aimerait bien vous entendre, les voisins, sur ce qui vous inspire aussi, comment vous avez envie de vous approprier la mode de votre continent. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
Zagadat. Team time, body time, time. It's your boy.
It's E. Kelly.
My baby, they confuse me, yo, with that bomb, bomb. But she got the guy where they send her money from London. She they see me like a Johnny, just come. Yeah. My monkey, they walking, baboon, he just to chop. Me, I go chop all the washing, as long as you give me my passion. Baby, make you know they rush me. I beg you, make you treat me with caution. Leg over. My baby, give me leg over. Hangover. Baby, she dey give me hangover. Hey, leg over. Oh, no, man, give me leg over. Hey, game over. She dey come give me game over. I dey confuse you, I dey confuse when you turn around, baby. You dey make her confuse. You do all I like it, a Cameroon, mess when rise the boy, and baby make her confuse. Commando, you be commando, you dey command the boy, you the overload, yeah, yeah. I know fi stand alone, I must call my guy, we for rendezvous. Yeah, I go chop all the washing, as long as you give me my passion. Baby, make you know they rush me, I beg you, make you treat me with caution. Leg over, my baby give me leg over. Hangover, baby she dey give me hangover. Leg over, oh no man give me leg over. Game over, she dey come give me game over. It's your boy.
baby they distract me, you with a bum bum. But she get the guy where they send that money from London.
C'est Mr. Easy, Leg Over, chez 7 milliards de voisins. On parle de cette création africaine sur RFI aujourd'hui, de ces créateurs, de ces créatrices sur le continent africain, en partie d'ailleurs qui font fabriquer la plupart du temps sur le continent africain. Nelly Wanji, vous, c'est vraiment le défi de votre plateforme, de faire fabriquer essentiellement sur le continent africain. Vous faites fabriquer où exactement, à part le Maroc, où là il y a des structures qui sont déjà bien installées?
Je travaille avec des marques qui fabriquent au Nigeria, qui fabriquent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun pour certaines, aussi en Afrique de l'Est, donc c'était l'Éthiopie notamment.
Les textiles aussi sont produits sur le continent ou pas?
Pas les textiles encore pour certaines marques.
C'est-à-dire qu'ils viennent d'Asie?
Il y en a qui viennent d'Asie.
Taillés,
et c'est ça un peu le...
cousus en Afrique.
Exactement, exactement. Mmh. Mais il y a des textiles qui viennent d'Afrique. Si on peut citer un exemple qui porte très haut, en tout cas avec un positionnement luxe du coup de ce textile africain, ce serait Aïssa Dionne, qui vient notamment de signer une collaboration avec Louboutin, Christian Louboutin. Et certaines de ses pièces étaient exposées, comme le disait Emmanuel Courrèges, chez Alara, qui est un peu cette image de l'Afrique, de la sublimation des textiles africains. Donc un luxe en Afrique, il existe déjà, finalement.
Alors c'est quoi le luxe africain, finalement, aujourd'hui?
Le luxe africain,
vous,
déjà, qu'est-ce que c'est le luxe? Parce que parfois, pour certains, le luxe, c'est juste un prix sur un produit. Mais le luxe, c'est un ensemble de choses dans un processus de fabrication. Depuis la réflexion sur le design, sur le montage de la pièce, la fabrication,
oui, mais pour un
l'environnement
client,
de
pour
marque.
Pour un client qui achète, que doit-il comprendre de ce qu'il
un
achète?
Savoir-faire,
que doit-il
un savoir-faire,
ressentir
un savoir-faire, la rareté d'un produit. Un produit qui n'est pas diffusé en grande masse. C'est finalement la rareté d'un produit qui fait son statut.
Ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a des très grandes marques qui communiquent beaucoup et en fait, il n'y a pas du tout de création, il y a simplement de la communication et c'est du luxe. Donc, la majorité des grandes marques fonctionnent comme ça.
Mais elles ont commencé comme ça, finalement. Valorisation quand même d'un héritage et d'un savoir-faire. Si on prend les grandes maisons françaises, elles ont un savoir-faire qu'elles valorisent depuis la nuit des temps.
Voilà,
c'est pas
vous
parce
parlez
qu'elles
d'un héritage.
Si vous deviez vous adresser à des clients africains sur le continent africain, comment vous définiriez pour eux le luxe africain, Emmanuel Courrèges?
Pour répondre à votre question, je vais raconter juste une anecdote. Je voudrais rappeler qu'il y a 6-7 ans, je crois que c'était en 2010, il y a une très grande maison, pour ne pas la citer, Vuitton, donc un des empereurs du luxe français, qui a été condamné pour avoir fait une publicité pour sa marque donc de maroquinerie que tout le monde connaît. En Afrique, tout le monde, dès qu'on a un peu de pouvoir d'achat, on s'achète un sac Vuitton, a été condamné pour avoir fait une publicité mensongère en vantant le fait que ses produits étaient faits main. Ça veut dire que le luxe, pour ces grandes maisons, c'est le fait main. Une maison comme Hermès, par exemple, a 4000 artisans. Et je dis bien artisans. Et je voudrais, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Vous disiez tout à l'heure que j'avais écrit sur mon site que j'étais contre le wax. Je ne suis pas contre le wax. C'est pas, la mode africaine n'est pas le contraire du wax. Le wax, j'ai été habillée toute ma vie en wax, donc j'adore le wax. Simplement, il y a aussi autre chose. Et il y a aussi des textiles africains qui prennent du temps. Je pense à une marque comme Yamisigo, qui est une marque créée par une Nigériane qui a aussi vécu au Ghana. La jeune femme s'appelle Boubo Jissi, je la diffuse cet été sur Lago 54. Elle travaille avec des artisans qui font du kente, donc un textile traditionnel.
Qui ressemble à quoi?
Qui ressemble à un coton épais. C'est un tissage, en fait. C'est un tissage traditionnel qu'on trouve principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire.
Donc tissé sur de petits métiers, c'est ça?
Sur de petits métiers, exactement. Donc avec des bandes qui vont être cousues entre elles. Et là, qui a été remasterisé, updaté, comme on dit, customisé avec des fils d'argent. C'est une pièce... Moi, je trouve que c'est des pièces... c'est des pièces très fortes dans un vestiaire de filles qui aiment la mode. Et ce que je voudrais dire, et je pense... Nelly Wanji la diffuse également. Je pense à cette créatrice de petits paniers très chics qui s'appelle AK. Axe, créé par une Ghanéenne qui s'appelle Akosua Afrique.
Avec de très belles couleurs.
Avec de magnifiques couleurs, très pop, très vitaminées. Et pour faire 100 sacs, il faut 3 mois.
Trois mois pour produire 100 petits paniers comme ça.
Oui, c'est ça qui justifie le prix. Parce qu'évidemment, moi, je commence déjà à entendre des gens me dire « Ah, mais les produits sont super beaux, mais c'est super cher. » C'est ça.
Ils sont chers, mais ils sont beaucoup, beaucoup moins chers que le luxe français.
Bien sûr. Mais je veux dire à vos auditeurs, parce qu'il y a une tendance au wax, donc on se dit « Ah, ben nous aussi, on a du wax, donc on va se lever un matin, puis on sait coudre, et puis on sait faire une jolie robe trois trous. Voilà. » Et donc, on va faire... Et non, on est créateur de mode. Non. Allez chercher dans vos textiles traditionnels. C'est vraiment ça, le luxe.
Et alors, du côté des hommes, qu'est-ce qui bouge, Marie-Jeanne Sermin-Thomas?
Alors, du côté des hommes, notre chère Prudence Olicot. Est-ce que vous vous rappelez de Prudence Olicot?
Qui est venu plusieurs fois à ce micro.
Voilà. Alors, Prudence Olicot est ivoirien. Il fait des chaussures de luxe sur mesure. Il est installé à Vichy aujourd'hui. Et ça, c'est une exclusivité. Avec le magazine Brune, nous allons sortir une collection pour femmes.
Mais pour les hommes.
Alors pour les hommes, ce sont les chaussures toujours. Les hommes sont accros aux chaussures, aux belles chaussures.
Je pensais que vous alliez me parler des chemises parce que quand même
aujourd'hui, on peut avoir
un métier sérieux et afficher une chemise qui a vraiment quelque chose d'africain dans la création.
Non, alors il faut voir qu'il y a une espèce d'uniformation, par exemple dans les chemises, dans les costumes, c'est toujours la chemise slim, le costume slim. Je dis souvent à notre ami DJ Akouté qu'il a vraiment ce look des slimmers d'Afrique. Mais par contre, tout ce qui est détail pointu, la chaussure, ça peut être la ceinture aussi griffée. Ils vont dépenser beaucoup plus finalement pour une paire de chaussures que pour un costume.
Ça d'accord, mais est-ce qu'ils s'approprient aussi, eux aussi, de plus en plus l'inspiration de leur continent?
Alors oui, par exemple au Burkina, il y a un jour qui a été décidé jour de l'Afrique, c'est-à-dire que ce jour-là, les fonctionnaires sont obligés de mettre une tenue traditionnelle. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient pu faire évoluer cette tenue traditionnelle que j'adore, qui est un costume masculin, mais qui, par exemple, Chris Seydoux, à l'époque, avait utilisé ce costume masculin pour en faire une robe pour femme, et qu'il portait avec un pantalon en dentelle qui était d'une pure merveille. Porter du traditionnel alors quand on est moderne, sans que ce traditionnel ait évolué, n'est pas forcément heureux. Donc il faut aussi avoir des créateurs qui proposent des choses jolies, des choses intéressantes, des choses qui aillent et puis qui sont conformes aussi à un espèce de goût du jour. Voilà,
c'est Nelly Wanji, vous diffusez des créateurs pour les hommes?
Chez les hommes, oui, on a des produits, on a une sélection pour les hommes. Et vous demandiez s'il y a assez d'hommes qui s'approprient aussi cette culture africaine de la mode.
Des chemises tissées, brodées.
Notamment la tunique. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes qui portent la tunique. J'ai diffusé une marque, et je diffuse toujours, Chocolate, qui est une marque ghanéenne qui fait des très beaux ensembles tuniques avec des pantalons. Donc ce sont des tenues qu'on porte pour des cérémonies un peu officielles, mais pas que. Donc j'ai quelques clients parisiens qui aiment beaucoup justement ce type de produit, parce que c'est un produit qui est très sobre, finalement il n'y a pas d'imprimé. Mmh. S'il y a des imprimés, des fois c'est des toutes petites bandes de pain tissé qui sont rappelées pour signer, mais ça reste très sobre, très élégant, qu'on peut porter pour aller au travail, ou on peut porter pour une cérémonie.
Pas besoin d'être musicien pour pouvoir s'habiller avec des créateurs africains.
Absolument,
c'est ça,
pas.
Qui a vraiment changé.
Heureusement.
Oui, c'est ça. Emmanuel Courrèges.
Oui, moi dans cette sélection, j'ai fait une sélection, comme vous avez dit, c'est un mot un peu branché, mais très pointu. La seule question, depuis que j'ai lancé cette plateforme, dans juste quelques jours, j'ai déjà reçu un nombre incroyable de courriers venant d'Afrique, de jeunes créateurs qui me demandent quelle est la sélection, comment j'opère cette sélection. La seule chose qui me guide, c'est que j'ai travaillé donc dans la presse féminine pendant 20 ans, pour Elle, pour Vogue, pour Marie-Claire, etc., Grazia. La seule question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que je vois cette robe ou cette tenue en couverture du L. Si la réponse est oui, je prends et j'achète. Voilà. Donc c'est pas, ça peut y avoir du wax. Peut-être l'année prochaine, je ferai des choses avec du wax. Mais c'est vraiment le style. Votre question, elle était sur la question de cette émission, je crois, était sur. Pardon.
Quand vous dites sur la couverture du L, d'ailleurs, vous pensez à quoi? Vous pensez sous la couverture du L avec un mannequin à peau noire ou à peau blanche? Parce que qui est sous-jacent aussi.
Non, la question, elle est pas là. Et la question, elle est faire sortir la mode africaine d'un carcan ethnique. Voilà. La mode africaine n'est pas faite que pour les Africains. La mode africaine, elle est faite pour être portée autant sur Michelle Obama que Kate Moss ou Beyoncé ou la plus grande blogueuse mode du monde. Vous voyez, je porte une jupe qui est faite au Burkina Faso par la marque Gabenéen Studio 189. Donc, faite en collaboration fondée à la fois par Rosario Dawson, l'actrice américaine, et Abrima Hervia, qui est d'origine ghanéenne. Cette robe, cette jupe, je l'ai achetée, donc elle est commercialisée sur mon site, parce que je la vois avec un perfecto en cuir, en couverture duel, porté par Kate Moss. Ou... Je ne me pose pas la question de savoir où est-ce que ça a été fait, est-ce qu'il y a des gens qui ça fait vivre. C'est d'abord un produit qui a de l'allure, qui est, voilà, qui est un produit mode.
Hype, comme on dirait.
Hype.
Aujourd'hui, le luxe, néanmoins, reste encore hors de portée, y compris de la classe moyenne aisée sur le continent africain, Marie-Jeanne Servan-Thomas.
Oui, bien sûr, mais le luxe est d'abord une histoire et la classe moyenne a parfois des produits qu'elle ne met pas en valeur mais qui ont énormément de qualité. Ça peut être du kanté par exemple d'une grand-mère qu'on garde, ça peut être un boubou de Jumajang Diakité qui ne crée plus tellement aujourd'hui mais qui à l'époque était la plus grande créatrice de boubou d'Afrique de l'Ouest.
En tout cas, on a cité beaucoup de créateurs aujourd'hui, beaucoup de villes, beaucoup de pays. Évidemment, côté francophone, on pourrait encore se prolonger le débat et demander si Abidjan va détrôner Dakar ou pas, parce que ça bouge aussi beaucoup en Côte d'Ivoire. Merci à vous toutes, Marie-Jeanne Servan-Thomas, la rédactrice en chef du magazine Brune. Nelly Wonji, on vous retrouve sur la plateforme Moonlook, ou plutôt vos créateurs repérés. Et Emmanuelle Courrèges, fondatrice de la plateforme lago54.com. Évidemment, tout est noté sur la page des 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Merci à vous toutes, mesdames,
merci à vous
d'être venues de nous avoir apporté vos lumières sur cette mode africaine qu'on aime beaucoup. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Hugo Violas. Demain, 7 milliards de voisins, femmes en résistance en Turquie. Elles militent dans des associations pour les droits des femmes ou bien sont de simples mères. Le jazz qui